très très heureux de se retrouver dans notre étude de Givat Shmuel, notre étude quotidienne, enfin hebdomadaire, c'est-à-dire hebdomadaire. Et cette année, voilà, on entame notre huitième année. Alors on a étudié la paracha, on a étudié le livre de Bereshit, on a étudié les grands personnages du judaïsme. On se lance dans un nouveau cycle. Alors combien de temps ce cycle va-t-il durer? Eh ben, on verra. On verra, on n'est pas à ça près. On n'est pas à 10 ans près. Donc, on commence un nouveau cycle sans complètement abandonner nos personnages, puisqu'il a été décidé en haut lieu que on ferait tous les mois 3 semaines de cours sur le nouveau cycle. Et une fois par mois, on se replongerait quand même dans un personnage pour ne pas les laisser trop de côté. Mais quel est donc ce nouveau cycle? Eh bien, nous ouvrons l'étude de ce qu'on appelle Perek Chelek, les Agadot de Perek Chelek, à savoir, on va parler des fondements de la Emouna d'Israël, des Ikaré Aemouna, comme on pourrait paraphraser le Rambam. Donc, ça se trouve dans la Mishnah et dans la Gemara du traité de Sanhédrin. Alors, voilà pour ce qui est de la présentation du sujet. Mais en vérité, cette présentation, elle va durer beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut d'abord se poser la question. On va rentrer maintenant dans le monde de la Haggadah. C'est-à-dire que là, notre étude ne va pas nous emmener dans le monde de la Halakha, mais on va plonger dans le monde de la Haggadah. Et la question qu'on se pose, c'est d'abord, pourquoi y a-t-il deux styles de transmission de la Torah différentes dans le Talmud, que sont la Halakha et la Haggadah? Qu'est-ce que l'un vient nous apprendre et qu'est-ce que l'autre vient nous apprendre? Eh bien, tout d'abord, la Halakha, c'est fastoche. Ça vient nous apprendre et nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. Bah, c'est pas shoot mode. La Halakha, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. La Haggadah, c'est qu'est-ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, c'est le pourquoi profond de ce qu'il faut faire. D'accord ? Là, je le dis de manière très générale et très schématique, mais quelque part, c'est de cela qu'on parle. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de Haggadot, eh bien, on est tout de suite face à une réalité. Comment dire ? Les Haggadot, du Talmud particulièrement, eh bien, très souvent, elles sont présentées par des histoires un petit peu abracadabrantesque. C'est-à-dire, des fois, ce sont des histoires vraiment qui sortent de la compréhension littérale qu'on pourrait leur donner. Et la question est de savoir, alors, est-ce que ces Haggadot ne sont simplement que des fables, comme on peut trouver dans toutes les cultures? Il y a des histoires qui sont pas forcément vraies. Est-ce que c'est cela que la Haggadah vient nous apprendre? Des belles histoires? Lorsqu'on va se plonger dans l'un des premiers qui va donner une définition des Haggadot, il s'agit, voilà, d'un personnage qu'on n'a pas encore traité parce que on n'a pas traité les personnages d'il y a 1000 ans, mais un des premiers séfarades, et quand je dis premier séfarade, c'est pas seulement au niveau chronologique, mais c'est peut-être aussi au niveau de l'importance, un des plus grands maîtres du judaïsme et, comment dire, c'est un des seuls qui non seulement était Gdol Hador, mais en plus était un homme politique et en plus était Ramatkal. Tout ça en même temps, chef d'état-major. Je veux parler bien sûr de Rabbi Shmuel Hanagid. Et Rabbi Shmuel Hanagid va nous expliquer qu'est-ce que c'est la Haggadah dans son livre Mevo à Talmud. Et là-bas, il nous dit la chose suivante. Je cite Rabbi Shmuel. Haggadah ou kol perush yavo b'Talmud al shum inyan shelo yiyé mitzvah. En d'autres termes, c'est ce qui est pas la halakha. Zoï Haggadah. Ve'en lecha l'ilmod mimena, ela ma sheyale al adat. Et là, c'est compliqué. Nous dit Rabbi Shmuel Hanagid, et tu ne dois en sortir que ce qui te semble cohérent. Quoi, c'est tout? Ve'yesh lecha l'adat, shekol ma shekiyimu chazal alacha be'inyan mitzvah, shei mipi Moshe Rabbeinu alav ha-shalom, shekibel mipi ha-gvura, en lecha l'osif alav ve'lo ligroa mimeno, tout ce qui est du domaine de la halakha eh bien, Moshe l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu dois ni rajouter ni enlever. Aval, ma she pirshu ba poskim, ba psukim, kol echad, kefi ma she nizdamen lo, ou ma she ra'a bedaato, ou lefi ma she yale ala daat, min haperushim ha'el, ou lomdim otam, v'ashar en somchim aleim. Nous dit Rabbi Shmuel Hanagid. Mais pour ce qui est de la Haggadah, des drashot, des psukim, eh bien, ce que tu vas comprendre et accepter, bah, tu prends. Ce qui te semble complètement absurde, tu prends pas. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Rabbi Akiva, par exemple, lorsqu'il dit que Halakha X ou Y qu'il enseigne, ça lui vient de Moshe Rabbeinu, qui lui vient de Kadosh Baruch Hu. Vous allez me dire que lorsque Rabbi Akiva, ce même Rabbi Akiva, qui est Doresh, les psukim de la Torah, des Haggadot, eh bien, ce n'est pas une transmission qui lui vient de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas de massorette là-dedans. Alors, il faut comprendre une chose. La définition de Rabbi Shmuel Hanagid n'est pas la définition du judaïsme. C'est la définition d'un Rav qui écrit un livre pour les juifs qui n'ont pas de Rav. Rabbi Shmuel Hanagid, dans Mevo à Talmud, il écrit un livre pour les juifs qui n'ont pas la possibilité d'être en contact avec leur rabbin, qui vont étudier la Torah tout seul. Et donc, lorsqu'ils vont étudier la Torah tout seul, et qu'ils vont arriver au texte de Haggadot, eh ben, nous dire, Rabbi Shmuel, écoute, ce que tu comprends qui a l'air cohérent, prends-le, sinon non. Pourquoi? Ben parce que je serai pas là pour te l'expliquer. Mais il est évident que lorsque tu vas étudier la Torah comme il se doit, c'est-à-dire avec ton rav, eh bien, à ce moment-là, évidemment que tu vas expliquer la Haggadot, même les choses qui nous paraissent compliquées. Et c'est ce que va faire, par exemple, le Maharal de Prague dans son livre Bera Gola, lorsqu'il va nous écrire Chidushé Haggadot, le Maharsha, et j'en passe des meilleurs, Rabbi Yosef Chaim, Ben Ishraï, évidemment, un des derniers en date. Et évidemment, le Rav Kook, quand il va écrire Enaya, le commentaire des Haggadot sur Brachot et sur Shabbat. Donc, Bekitsour, la Haggadah, c'est qu'est-ce qu'il faut penser en profondeur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut commencer, alors on a fait une présentation générale de ce que c'était que la Haggadah. Maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce Perek Chelek. Perek Chelek, il fait partie de Maseret Sanhedrin. Or, Maseret Sanhedrin, de quoi ça parle? Alors, vous allez me dire, ça parle des tribunaux, des dinims que l'homme, il est soustrait si jamais il fait une bêtise. C'est ce qu'on va retrouver dans Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Sanhedrin n'est que la dernière partie de Seder Nezikin. Donc, en gros, Sanhedrin vient conclure toutes les lois, on va dire, les lois sociales et les lois et les tribunaux qu'on va devoir mettre en place pour juger tout le monde. Et c'est quand même bizarre, parce que, comme je vous l'ai dit, Perek Chelek va parler des fondements même de la Emouna et de surtout ce qui va se passer Baolam Haba. Kol Israël et Shlaim Chelek Leolam Haba, dira-t-on. Donc, pourquoi est-ce que c'est marqué à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que c'est là qu'on a choisi de parler du Olam Haba? Eh bien, la raison est toute simple, en fait. Dans la mesure où le traité de Sanhedrin va nous parler des gens qui potentiellement vont être mis à mort par le Sanhedrin, eh oui, parce qu'on nous parle de quoi dans Maseret Sanhedrin? Eh bien, on nous parle concrètement de tous les litiges, y compris si tu as fait des choses qui sont Chayav Mita. Et donc, une fois qu'on t'a dit, il y a des gens qu'il est possible qu'ils vont se faire exécuter par le tribunal, qu'est-ce qui va se passer avec eux après leur mort? Et c'est donc la raison pour laquelle c'est à cet endroit-là qu'on va nous parler de Perek Chelek. Une fois qu'on a mis en place qu'il est possible de terminer la vie, bah, faut se poser la question, alors qu'est-ce qui reste après cette vie? Seulement, lorsque le Rambam, par exemple, voudra écrire ses Ikaré à Emouna à Yehoudit, les 13 articles de foi de Maïmonide sur qu'est-ce que c'est que le judaïsme, eh bien, où est-ce qu'il va les écrire? Alors, on a l'habitude à tort de dire qu'il écrit la Hagdama du Perek Chelek. la Hagdama de ce chapitre qu'on va étudier. En vérité, ce n'est pas la Hagdama, c'est tout simplement l'explication du Rambam de la première Mishnah de Perek Chelek. Mais bon, lo meshané kol kach. Pourquoi le Rambam nous parle des bases de la Emouna ici? Eh bien, justement, parce que le Perek Chelek nous parle du Olam Haba. Et le dernier des 13 Ikarim du Rambam nous parle du Olam Haba. Mais la question est la suivante. Le Rambam, c'est le 12e siècle. Comment ça se fait qu'avant lui, personne n'avait pensé à écrire des Ikare à Emouna? Eh bien, c'est une raison très simple. Lorsque nous vivons la Emouna, on n'a pas besoin de l'écrire. Lorsque nous vivons un judaïsme fort et vrai, on n'a pas besoin de le mettre par écrit. Les livres de Minagim ne sont écrits que par des gens qui ont quitté leur communauté d'origine et qui ne vivent plus parmi les Minagim. Donc on est obligé de les mettre par écrit. Lorsqu'on lui posera la question au Rambam, « Oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé du Olam Haba ? Pourquoi la Torah n'en a pas parlé ?» Toi, t'en as parlé, tu m'avais un petit peu parce que t'as expliqué la Mishnah, mais pourquoi la Torah n'a pas parlé du Olam Haba? Eh bien, il dira, parce qu'on peut pas arriver à comprendre ce que c'est le Olam Haba. Or, la Torah ne nous a expliqué que de choses qu'on pouvait comprendre. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Sefer HaKuzari, lui donnera une explication complètement différente. Il dira, pourquoi est-ce qu'on nous parle pas du Olam Haba? Zelo Chashuv. C'est pas important. Ce qui est important, c'est Olam Hazeh. Et de développer Olam Hazeh. Il n'empêche, eh bien, que la Gemara va nous dire que Kol Israël est Shlaim Chelek L'Olam Haba. Mala Asot. Il va donc falloir qu'on plonge là-dedans. Mamash, qu'on plonge là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette dimension du Perek Chelek? D'ailleurs, pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Perek Chelek? Bizarre. Je disais tout à l'heure que quand on a perdu quelque chose et qu'on essaye absolument de le retrouver, c'est la meilleure preuve qu'on l'a perdu. J'enfonce une porte ouverte. Oui, quand tu essayes de retrouver quelque chose, c'est que tu l'as perdu. Nachon, mais c'est l'indicatif. Disait Emmanuel Levinas, une phrase très très forte. Disait Emmanuel Levinas, il disait, lorsqu'un juif se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'identité juive, c'est qu'il en est déjà très très éloigné. Quand tu sais qui tu es, tu te poses même pas la question. Alors ce chapitre, comment s'appelle-t-il? Et c'est lequel? Dans la présentation du cours, on a dit qu'on allait étudier Perek Chelek. Oui, c'est comme ça qu'il est appelé dans le Talmud de Babylone. Dans le Talmud de Babylone, ce chapitre est appelé Perek Chelek. Mais dans le Talmud de Jérusalem, il n'est pas appelé Perek Chelek. D'ailleurs, comment est-ce qu'on donne le nom à un chapitre du Talmud? Eh bien, on prend les premiers mots du chapitre, les premiers mots qui sont, semble-t-il, les mots les plus importants. Les plus importants, c'est vrai. Mais la Mishnah, comment elle commence? Elle dit « Kol Israël eshlehem chelek leolam haba ». Donc pourquoi est-ce que tu as appelé ce chapitre le chapitre chelek? Dans le Talmud de Jérusalem, ce chapitre s'appelle Perek Kol Israël. Parce que le premier mot, c'est Kol Israël. Parce que ce qui est fondamental, ce qui est important, ce qui est au centre du débat, c'est Israël. Oui, mais ça, c'est dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, on est en exil. Et en exil, la question est de savoir Aïm yesh li chelek leolam haba ou lo. La question de Kol Israël Bagalout ne se pose pas vraiment. La perception que je fais partie d'un collectif Bagalout n'est pas mise en avant. Mala asot. Alors que la question individuelle de savoir est-ce que moi, j'ai Shlichelek Leolam Haba, ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, ce n'est pas le seul changement qu'il va y avoir entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans la Mishnah, le Perek Chelek n'est pas le dernier chapitre du traité de Sanhedrin. C'est le chapitre 10. Et il y en a 11. Dans le Talmud de Jérusalem, ça reste le chapitre 10. Dans le Talmud de Babylone, on l'a repoussé. Je ne sais pas si vous imaginez, le Talmud de Babylone a tout simplement changé l'ordre de la Mishnah et a repoussé Perek Chelek en dernier chapitre. Les Otmadoua. Eh bien, on disait tout à l'heure, on a fait la différence entre les textes qu'on a dit être des textes de Halakha et les textes qu'on a dit être des textes de Agada. Dans le Talmud de Babylone, la séparation entre Halakha et Agada est évidente. C'est la raison donc pour laquelle, eh bien, lorsqu'on va mettre en place un chapitre qui parle à 99% de Agadot, eh bien, on veut le séparer du reste de la Maseret. Et donc, on met Perek Chelek à la toute fin. Dans le Talmud de Jérusalem, qui n'a aucun problème de mêler la Halakha et la Haggadah, alors on laisse le Perek Chelek à sa place, on l'appelle Kol Israël, et on le laisse au 10e chapitre, et il y aura le 11e derrière. Beseder ? Donc, récapitulons. Attendez, il y a... Les Haggadot ont-ils force de loi dans la Halakha ? Très bonne question, Alex. D'après ce que je viens de dire, les Haggadot ne peuvent pas faire force de loi dans la Halakha au niveau du Bavli. Au niveau du Yerushalmi, oui. Je te donne un exemple. Au niveau, on a fêté la fête de Sukkot, au niveau du Talmud de Babylone, Lulav Ayavesh Pasoul. Et pourquoi Lulav Ayavesh Pasoul? Eh bien parce qu'on va te faire un Ekesh et on va te faire une étude de versets, une comparaison de versets, pour finalement arriver à comprendre que Lulav Ayavesh Pasoul. Pour le Talmud de Babylone, c'est donc une étude intellectuelle qui t'explique pourquoi. Dans le Talmud de Jérusalem, on va te dire Lulav Ayavesh Pasoul. Pourquoi? Kilo Ametim Yalleluya. C'est-à-dire qu'on va te prendre un verset de Haggadah, Lo Ametim Yalleluya, et c'est de lui qu'on va se baser pour eh bien, déterminer la halakha. Malheureusement, et là je dis malheureusement, Agalout Nitzra. La Galout a gagné. C'est-à-dire que des deux Talmuds, eh bien, c'est le Talmud de Babylone qui s'est imposé. Même si aujourd'hui, il y a Baruch Hashem, un mouvement de retour au Talmud de Jérusalem, on est quand même posé Kalacha très souvent selon le Bavli, pour une raison très simple. D'abord parce que il nous manque une partie du Yerushalmi qui s'est perdue dans l'histoire. Et deux, eh bien, parce qu'on s'est habitué pendant très longtemps à étudier Talmud Bavli. C'est-à-dire, donc cette différence, est-ce que la Haggadah peut avoir une incidence à la Halakhique ou pas, on y revient. De toute façon, nous on a dit on va pas étudier la Halakha, mais on va essayer de comprendre les fondements même de la Emouna d'Israël grâce à ces Haggadot. Ça a l'air ? C'est clair ? Yofi. Donc maintenant qu'on est là, maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien je pense qu'on peut sans problème commencer à rentrer dans le texte. Alors, dans les prochains cours, on va essayer, enfin, je vais préparer en partage d'écran le texte de la Gemara. Vous pouvez soit l'avoir sous les yeux, soit le regarder sur l'écran. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce que on va pas étudier beaucoup de textes aujourd'hui puisqu'on est dans notre introduction. Donc, on va simplement faire les deux, trois premières lignes de la Mishnah. Si vous n'avez pas le texte sous les yeux, c'est pas grave, vous la connaissez de toute façon par cœur. Beseder. Donc, je vais simplement lire les premières lignes de la Mishnah. C'est toujours notre introduction. On a compris ce que voulait dire la Haggadah. Maintenant, voyons comment ça commence. Kol Israël, yesh lahem chelek le'olam haba. Il y a un verset qui va appuyer cette phrase. Que tout Israël a part au monde futur. Mais je ne veux même pas encore rentrer dans le verset parce que déjà là, j'ai un problème. Kol Israël, Yishlem, Chelek, Leolam, Abba. Pourtant, moi, j'avais appris dans une autre Gemara, dans un autre enseignement de la Gemara, qu'il y avait une machloquette énorme entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Lévi. Ma machloquette. Eh bien, il y avait une dispute. Rabbi Yoshua ben Lévi avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi. Bon, c'est pas n'importe qui le bonhomme. Et un jour, lorsqu'il rencontre Eliyahu, il lui dit « Est-ce que je suis Bar Alma Deate ?» En français, « Est-ce que je suis Ben Aolam Abba ?» Ou en hébreu, « Est-ce que je suis un fils du monde à venir ?» Et le Mashiach, Eliyahu Hanavi, lui répond « Lo. Lo. » Lorsque le même Rabbi Yoshua ben Lévi va rencontrer le Mashiach, oui, c'est pas n'importe qui le bonhomme, il va lui demander « Est-ce que j'ai part au monde futur ?» Et on lui dira « Oui ». Donc je comprends pas, il a part au monde futur, mais il n'est pas un fils du monde futur ? Et Rabbi Yochanan de répondre que « Ben Haolam Abba », ce n'est pas la même chose que « avoir chelek » La Olam Abba. Quelqu'un qui est ben à Olam Abba, yesh lo chelek ba Olam Azé. C'est-à-dire, où est ton essentialité? Est-ce que tu es essentiellement un membre du monde futur, monde à venir, et donc ici, tu n'es que en vacances? Ou alors, est-ce que tu es ici de manière essentielle, et dans le monde futur, tu as une part? Chelek. C'est toute la différence entre Ben Haolam Abba et Chelek Laolam Abba. Tout le monde n'est pas Ben Haolam Abba. Et on ne va pas rentrer maintenant dans l'explication de qu'est-ce que c'est Ben Haolam Abba. Pour faire très simple, il faut avoir le sens de l'humour. Une des conditions sine qua non pour être Ben Haolam Abba, c'est d'avoir le sens de l'humour. Si tu n'es pas capable de rire, alors tu ne peux pas être Ben Haolam Abba. Bon, il y a d'autres critères. Celui qui est Somer Geoula Letfila, Bearvit. Celui qui dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, avant de dire la Hamida, le soir également. On le fait tous aujourd'hui, c'est comme ça que Nikbala Alakha. Mais ça veut dire que Ben Haolam Abba, c'est un statut particulier. Aval nous dit la Mishnah, Kol Israël Eshlaem Chelek Laolam Abba. Kulam. Alors, on va citer un verset, je vais y revenir sur le verset. Et Shenehemar, Vamer, Kulam, Tzadikim, Lolam, Irshu, Aretz, Netzer, Mataim, Maseada, Litpaer. Je n'explique volontairement pas encore le verset. Mais là, je comprends pas. On nous dit, Velu, She'en, Lahem, Chelek, Lolam, Abba. On m'avait dit il y a deux secondes, Kol Israël, Eshlaem, Chelek, Lolam, Abba. Et là maintenant, on me dit, Velu, She'en, Lahem, Chelek, Lolam, Abba. Alors, je comprends pas. Tout le monde à part au monde futur ou pas tout le monde? Et je rentre volontairement pas encore dans l'énumération de qui n'a pas part au monde futur d'après la Mishnah. Mais je veux simplement comprendre la contradiction entre les deux parties de la Mishnah. Eh bien, cette contradiction, elle est expliquée de manière extraordinaire et tellement simple, finalement, par le Harizal. Le Harizal va nous expliquer de manière pas shoot. Kol Israël eshlehem chelek leolam haba, ou bichlal ze gam elu she'en lehem chelek leolam haba. Nous dit la Harizal, tout le monde, tous les bnei Israël, on part au monde à venir, y compris ceux qui n'ont pas part au monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit la Hari, ça veut dire que on fera en sorte que tu sois méritant d'avoir part au monde futur. Personne ne sera laissé de côté. Ah oui, est-ce que ça veut dire que ça devra passer par des Issourim, des Gilgoulim? Au final, tu auras part au monde futur quoi qu'il arrive. C'est d'un côté un peu stressant, parce que je vais devoir bosser, mais c'est extrêmement rassurant de me dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne me laissera pas en arrière. Kol Israël et Shlaim Chelek Leolam Haba. Même ceux dont on a dit Shelaim Chelek Leolam Haba, eh ben on les fera quand même rentrer par la porte de derrière. Olam Haba. Kol Israël Behemet. Yeshlaim Chelek Leolam Haba. Attends, ok. Alors allons-y. Cette idée que Kol Israël et Shlaim Chelek Leolam Haba, et on a dit Kulam, même ceux qui n'ont pas, ils ont quand même. Eh bien, c'est quand même fondamentalement différent. C'est une vision de l'éternité qui est fondamentalement différente de celle de nos amis chrétiens. Ah bah oui. Pour les chrétiens, Kol à Adam, yesh lo chelek la geinom. C'est-à-dire, pour un monsieur chrétien, tout le monde a part à l'enfer. Bon, je sais que le geinom, c'est pas l'enfer, mais non, je n'ai. Et si jamais tu as énormément de chance que Jésus te sauve, alors peut-être que tu auras part au monde, au Gan Eden. C'est complètement différent, c'est l'inverse de nous. Mamash l'inverse. D'ailleurs, je ne sais pas comment étaient vos soirées dans le lit quand vous étiez jeune et qu'on venait vous raconter une histoire avant de dormir. Alors, il y avait les contes de Grimm, il y avait les contes de Perrault, et il y avait les contes également d'un auteur danois, le fameux Andersen. Il y a Grimm, il y a Perrault, et puis Andersen aussi. Alors, le problème, c'est que je sais pas vraiment, enfin, j'aurais dû, je voulais regarder tout à l'heure sur Rav Google, et j'ai oublié, mais je vous avoue que je peux pas vraiment faire la différence entre qui a écrit quoi. Ça, je me rappelle plus. Je crois que La Belle au Bois dormant, c'est Andersen. Et Cendrillon aussi. Je crois. En vérité, je me rappelle plus qui est Perrault, qui est Grimm et qui est Andersen. Je me rappelle plus trop. Enfin, une chose est sûre, c'est que c'est pas Disney l'origine. C'est-à-dire, maintenant, dans les contes d'Andersen, il y en a un qui n'est pas devenu un film Disney, et il y en a un que personne ne connaît, qui s'appelle « Le voyage d'une âme ». Conte pour enfants, dans lequel notre cher Andersen nous met en scène une bonne chrétienne qui meurt. Voilà, au début du conte, elle meurt. Et en fait, tout le conte va être de voir quels vont être les périples de l'âme avant d'arriver au jardin d'Éden.
Ils viennent de faire un film comme ça.
Ah ouais? Non. Non, Soul. Soul.
Ouais, Saul.
Ah, Saul. Oui, je l'ai vu.
Saul.
Ça, c'est, ben oui, pour un groovin comme toi, évidemment. Évidemment que ce film t'a parlé.
Mais justement, il n'y avait pas de Soul Music.
Ah, c'est ça.
Sur les âmes. C'était le périple des âmes. C'était, d'ailleurs, tu n'as pas trouvé que c'était inspiré de la Kabbalah ou je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose dans ce film.
Non, d'abord, on voit beaucoup de Gilgulim, on voit beaucoup la notion de continuer à trouver ton idéal. Et si tu n'as pas fini, il faut revenir le retrouver, machin. Non, vada, il y a plein de choses. Non, vada, vada. Non.
Il y a une belle fin, il y a une très belle morale.
Très, très bon film, je suis d'accord avec toi.
C'est plus un film pour les adultes.
Je suis d'accord. Donc voilà, après le cours, vous saurez quoi faire. Sao, sao. En tout cas, dans notre voyage de l'âme, eh bien, nous avons notre jeune chrétienne qui meurt et l'âme arrive devant Pierre, Saint Pierre. Et là, eh ben, on commence à lui faire passer toute une batterie de questionnaires. Est-ce qu'elle a fait bien? Est-ce qu'elle a fait pas bien? Elle a fait là. Et la dernière question, c'est quoi? Mais ne serais-tu pas membre de la religion de Moïse qui dit Aïn tachat aïn, shen tachat shen, œil pour œil, dent pour dent? Et là, elle répond non, 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 pas du tout, j'ai toujours été une bonne chrétienne, tout va bien. Et à ce moment-là, eh bien, Saint-Pierre dit il n'y a pas de en mal à la sotte, les fautes que tu as fait, et en plus, le fait que chaque homme doit aller en enfer, eh bien, chaque homme, femme, et donc tu devras aller en enfer, au purgatoire. Et à ce moment-là, il y a une main divine qui sort du ciel et qui l'amène et lui ouvre les portes du paradis. La charité chrétienne est venue la sauver. Ouais. Ouais, mais c'est bien ce que ça veut dire. Chez nos amis chrétiens, tout le monde doit d'abord faire un petit tour au Guéhinnom. Chez nous, non. À la base, tout le monde a part au Gan Eden. Tout le monde a part au monde futur. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire Gan Eden parce que Olam Haba c'est Odioter Gadol mi Gan Eden. Mais si jamais il faut que tu passes par plusieurs évolutions avant d'y arriver, bah tu passeras, mais au final, tu y arriveras. Et donc, il y a une vision ici extrêmement optimiste du judaïsme qui nous dit « Personne ne sera laissé de côté. » Ça va ? Top ! Alors, une fois qu'on a dit ça, la question se pose de « Ok, mais on me parle à moi ? On me parle à tout Israël ? Est-ce qu'on me parle à moi individu ? Ou est-ce qu'on parle au clan Israël ? Kol Israël eshlehem chelek leolam haba. Aha. D'ailleurs, lorsqu'on nous dit Kol Israël, j'ai dit la Mishnah elle s'appuie sur un verset et le verset nous dit quoi? Ve'amer kulam tzadikim. Donc on parle ici en fait de qui? Et ça c'est une autre explication, pas celle du Harizal. Celle du Harizal c'est on a dit tout le monde y arrivera quoi qu'il arrive au final. Il y a une autre explication d'un autre grand maître de la Kabbalah, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui nous dit Kol Israël eshlehem chelek leolam haba. C'est au niveau du klal. Ve'elu she'en lahem chelek leolam haba, c'est au niveau du prat, de l'individu. La reine, she'ne'emar, ve'amer. Quand ils sont amers, kulam tzadikim. Lorsqu'ils sont rattachés à la dimension collective, alors kulam tzadikim. Lorsqu'ils ne le sont pas, eh bien, on va devoir vérifier au cas par cas. C'est-à-dire, et ça c'est quand même très très important de le mettre en avant, parce que ça montre bien qu'en fait, lorsqu'on va vouloir parler de notre attachement à l'idéal d'Israël, n'oubliez pas que ce chapitre ouvre les fondements même de la Emouna, et on a dit avec Eli qu'on essaierait à chaque cours quand même de donner l'idée générale de la Haggadah en question. Alors là on n'est pas encore dans la Haggadah parce qu'on est dans la Mishnah, mais quand même, ça veut dire que le premier point de ce chapitre, c'est que tu te dois de te rattacher à l'identité collective. Ve'amer kulam tzadikim. Et alors quoi? Comment ça continue? Le'olam yirshu aretz. Attends, deux secondes. Ve'amer kulam tzadikim, ça fait référence à Kol Israël. Mais après, il y a marqué quoi? Yeshlem chelek le'olam haba. Ça fait référence à quelle partie du verset? Le'olam yirshu aretz. Quoi? Ça veut dire que hériter du Olam Haba, c'est en rapport avec l'héritage de la terre d'Israël? Ben oui, vous avez compris. Où le peuple juif peut-il commencer à mettre en place le Olam Haba? Rak Be'eretz Israël. Lama kinetzer matai. Comment tu définirais le Olam Haba? Très très bonne question, à laquelle on pourra peut-être répondre à la fin de Perek Relek. Eh oui, je ne vais pas pouvoir te l'expliquer maintenant. Maintenant, je pourrais simplement te dire ce qu'on verra un petit peu plus tard, que Olam Haba, Ain Lora'ata Elohim Zulatecha. C'est-à-dire que pour l'instant, aucun œil n'a vu ce que c'était clairement le Olam Haba. Les Nevi'im ont parlé de Yemot HaMashiach, mais n'ont pas parlé du Olam Haba. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est. Donc, je peux pas te dire maintenant une véritable réponse. On verra au fur et à mesure de notre étude, est-ce que les choses vont devenir plus claires. Donc, tout ça pour dire que l'héritage pour le peuple juif de la terre d'Israël, eh bien, c'est ce qui nous permet de nous attacher à la dimension du Olam Haba. Aha! Je croyais que Olam Haba c'était complètement fondamentalement opposé à Olam Hazé. Eh bien, de là, on comprend que non. Olam Haba n'est pas opposé à Olam Hazé. Olam Haba est tout simplement la suite du Olam Hazé. C'est ce que dira le Ramchal dans son introduction du Messilat Yesharim, lorsqu'il nous dira que Olam Hazé domé le Prosdor, va Olam Haba le Traklin. Prosdor, c'est un couloir, Traklin, c'est le salon. Mais et le couloir et le salon sont deux pièces d'une même maison. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Mais chez l'otarar be'erev Shabbat, lo yochal be'Shabbat. Là aussi, si tu as fait ton repas de Shabbat, eh ben tu mangeras Shabbat. Tu l'as pas fait, tu mangeras pas. Donc il est évident que le olam haba est fondamentalement lié au olam hazeh. Et pour le peuple d'Israël, eh bien olam hazeh, ça se réalise be'eretz Israël, tout simplement. Ça a l'air. Maintenant qu'on a dit tout cela, eh ben il reste quand même une question qu'on n'a pas évoquée. Et une question qui est quand même importante. Puisqu'on a dit qu'il faut s'attacher à l'identité collective d'Israël pour faire partie de cette promesse. C'est pas un petit peu compliqué, toutes ces histoires qu'on demande aux Juifs? Franchement, monsieur Juif, c'est compliqué, sa vie. La vie de monsieur Goy, elle est quand même vachement plus simple. On attend la charité chrétienne et puis Bezrat Hashem, comme on dit. Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Être juif ou être goy? Au niveau de ma connexion avec l'éternité, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que je suis fondamentalement éternel, comme ce qu'on vient de dire, Kol Yisrael Eshtayim Chelek Lo Lamaba, ou pas? Eh bien, il faut savoir que cette question de nous relier à l'éternité, eh bien, c'est une question qui n'a pas intéressé que les Juifs, mais qui a intéressé également les esprits les plus brillants de l'Antiquité, comme par exemple deux des élèves d'Aristote. Aristote, eh bien, nous écrit dans son Sefer HaNefesh qu'il y a deux dimensions. Enfin, lui, il parle de la dimension éternelle, et il y a deux de ses commentateurs qui viennent et qui vont se disputer pour savoir est-ce que l'homme a une dimension éternelle ou pas. Dans ces deux commentateurs, hein, si vous voulez, alors on a d'un côté Alexandre d'Aphroditès, et de l'autre on a... Thémistios. Thémistios et Alexandre d'Aphroditès. Eh bien, l'un d'entre eux, Alexandre, nous dit que « Nefesh Adam Nitzrit ». Voilà, Aneshama, elle est éternelle. Et c'est elle qui a part au monde à venir, quoi qu'il arrive. Alors que pour l'autre, Thémistios, bien non. L'homme n'est pas éternel, mais si jamais il fait un effort pour arriver au mouskalot, pour arriver à la compréhension et à la connaissance, alors il peut devenir éternel. Qui a raison? Est-ce que c'est Alexander ou est-ce que c'est Thémistios? Eh bien, en vérité, le Rambam va donner raison à Alexander. Dans le Rambam, Shmoné Prakim, eh bien, on nous explique à la fin du Perek Aleph que l'homme n'est pas fondamentalement éternel, mais s'il travaille dur, eh bien, il deviendra éternel. Alors que le Ramban, lui, dit, mais pas du tout. Mamashlo. Béchar Agmoul nous dit le Ramban, qu'il y a une neshama éloïde, qu'il y a une éternité qui est dans l'homme. Et le Rav Kook, dans Olat Reiya, nous explique que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que pour les goyim, ce soit comme le Rambam, et donc comme Alexander, et pour les Yehudim, Am Israël, ce soit comme le Ramban, comme Thémistios. En d'autres termes, Am Israël a cette dimension d'éternité qui est déjà là. C'est un plus, mais c'est également un moins. Le moins, c'est que vous connaissez la chanson Am Netzach, l'homme est fached, miderech haruka. Am Netzach, l'homme est fached, miderech haruka. Ouais, c'est très bien. Mais le problème, c'est que vu qu'on sait qu'on est Netzach, des fois, on se tourne un peu les pouces. On n'est pas pressé que le monde atteigne sa dimension ultime. Eh, Yeshnetzach! Donc la dimension d'éternité pourrait nous amener à une certaine oisiveté. Mais c'est pas grave. Parce que à la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que ça vaut plus le coup d'être juif ou d'être goy? La réponse est très simple. La kedaïout, la question de savoir si ça vaut le coup, n'est pas posée par un idéaliste. Un idéaliste ne se pose pas la question. Et tous les juifs sont des idéalistes. Alors je dis tous les juifs, je ne sais pas toi et moi, mais oui, tous les juifs sont idéalistes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de venir ici-bas en tant que juifs. Et je dis bien, ils ont décidé. Nous dit la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, que kol ma'aseh bereshit le da'atam nivreu, que toutes les créatures ont été créées après leur avoir demandé s'ils voulaient être créés. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont répondu oui. Et donc tous les juifs qui sont là, c'est qu'ils ont répondu qu'ils acceptaient de venir en tant que juifs. Une majorité d'êtres humains ont choisi d'être goy. Mais Am Israël a décidé d'être celui qui doit dévoiler cette éternité. Il y a un choix qui a été mis en place dès le moment de ma création. Vous connaissez tous cette Mishnah qui nous dit Al Kochacha ta notzar, Al Kochacha ta nolad, Al Kochacha ta chay, Al Kochacha ta met, Al Kochacha ta atid iten din vecheshbon. Comme si c'était vraiment contre ma volonté tout, sauf que pas tout. La Mishnah a commencé en disant Al Kochacha ta notzar. Notzar, c'est 40 jours après la fécondation. La fécondation en elle-même s'appelle Pekida, dans le langage du Talmud. Et il n'y a pas marqué dans la Mishnah, Al-Kochacha Tanifkad. Car au moment de la Pekida, de la fécondation, c'est-à-dire du moment où la Neshama arrive ici, il y a un choix. Ce n'est pas contre ta volonté. Il y a un choix qui a été fait par ta Neshama d'accepter de venir ici. Top, nous. Alors, ça a l'air. On est bon alors. Kol Israël, Bemet, Eshlem, Chelek, Leolam Haba. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, il ne nous reste plus, pour terminer notre introduction, eh bien, que de poser la dernière question. Kol Israël, Eshlem, Chelek, Leolam Haba. Sheneemar, Ve'amer, Kulam, Tzadikim. Leolam, Yirshuaretz, Netzer, Mata'ai. Maase yadai leitpaer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que le rôle du peuple juif, c'est d'être netzer mataï. On aurait pu se contenter de kol Israël shem reklon haba, shenemar, ve'amer kulam tzadikim olam yirshu haaretz. Pourquoi est-ce que le verset de Yeshayahu continue en disant non? Netzer Matai Maase Yadai Leitpaer. Il y a une dimension de Netzer, c'est-à-dire de continuité. Continuité de quoi? De Matai. Akadosh Baruch Hu a planté un monde, a planté son dévoilement par l'intermédiaire de la Torah. On dit ça dès qu'on fait Birkat HaTorah. Vechaye Olam Nata Betochenu. Et comment est-ce que on va pouvoir mettre en pratique? Eh bien, Maase Yadai Leitpaer. Avec les Maasim du peuple juif, eh bien, ils peuvent dévoiler leur réflexion profonde. Alors, c'est quoi Perek Chelek? Eh bien, Perek Chelek, c'est le chapitre dans lequel on va expliquer, par l'intermédiaire des Haggadot, qui vont nous donner les fondements même de la Emouna d'Israël, pour qu'au final, enfin, on comprenne comment enseigner au monde entier, comment atteindre la dimension du Olam Haba. Voilà le programme, voilà le projet, et voilà ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, comment arriver au Olam Haba, comment réussir à faire passer le monde dans une dimension plus grande, dans une dimension plus sans écran avec le Créateur. Ça va être le propos de notre étude du lundi soir. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions sur notre introduction?
Vu que le rêve n'a pas fait, alors du coup, je vais citer Shlomo Carlebar.
Ah bah vas-y.
Est-ce que le Olam Haba, c'est le Yom Shikur Shabbat? Est-ce qu'il disait Shlomo?
Ah
Shabbat.
Il a fait. Comme tu te rappelles bien, dans les Zmirot de Shabbat, quand on parle du Yom Shekulo Shabbat, on dit que c'est Mein Olam Haba. Mein Olam Haba. C'est-à-dire que Le Shabbat, on le connaît. Ça ressemble au Olam Haba. Mais au Olam Haba, c'est encore plus grand. C'est-à-dire, alors, bon, tu sais quoi, c'est déjà, tu me l'as lancé. Il y a quand même une piste. Il y a quand même une piste qu'on avait étudiée ensemble il y a très longtemps lorsqu'on avait étudié le début du livre de Bereshit. Une piste qui nous avait été fournie par Manitou. Pour nous expliquer que dans la création, il y avait deux termes récurrents. Le terme de Yehi et le terme de Vayehi. Les deux termes faisant partie du verbe être, liot. Donc, Yehi, disait Manitou, c'est tout ce qui a un kiyum, une existence, baolam azé. Vayehi, c'est ce qui a une existence, baolam abba. Et quand on y regarde de plus près, à propos de quoi il est marqué Vayehi? Eh bien, à propos de la lumière et à propos de l'homme. En d'autres termes, je peux pas te dire, là maintenant, en début d'étude, c'est quoi le Olam Haba, mais je peux te dire que c'est un endroit où il y a la lumière et l'homme. Évidemment, il va falloir qu'on approfondisse un peu plus ça, et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rentrer encore plus en profondeur, pas seulement dans la Mishnah, mais dans la première Gemara, dans la première Haggadah. En fait, on sera pas tout de suite dans la Haggadah, mais la semaine prochaine, on va essayer de comprendre qui sont ces gens qui n'ont pas part au monde futur, mais qui auront part à la fin.
Bon, et puis je ne l'ai pas écrit dans les WhatsApp, mais pour comprendre mieux, il va aussi falloir que cette année, on monte enfin sur le bout du temple.
Ah bah ça c'est une autre histoire, ça, mon ami. Moi, j'attends ton coup de téléphone. Hein. Maintenant, le WhatsApp ne marche pas, donc il va falloir s'organiser autrement, mais avec l'aide de Bezrat Hashem.
Télégramme.
Yofi.
Merci beaucoup, Gvadara.
Chazak ou Baro, donc je sais pas si... Il y a une question, il n'y a pas de question? Non.
La question que je voulais, moi, c'était, ça sent bon au Olam Haba, parce que on dit qu'on fait psamim à la fin de dans l'Abdallah, à la fin de Shabbat, parce qu'en souvenir du.
Nachon.
Ça va sentir bon là-bas.
La cannelle. Nachon. Yofi, Chazak ou Baruch, les amis.
Shavua Tov, Shana Tov.
Kol Tov.
Merci, Toda Rabba.
Chazak.